Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Un beau soleil intérieur avec Juliette Binoche, le nouveau documentaire d'Al Gore sur l'environnement, la comédie familiale Le Petit Spirou sont les nouveautés à ne pas rater au cinéma. Cette semaine, nous dira Stéphane Boutsock dans un instant et rendez-vous au 3210 où nous vous offrirons des places pour aller découvrir Le Petit Spirou en salle. Le nouvel album de Bernard Lavilliers, 5 minutes au paradis, sortira vendredi. Le chanteur nous le présentera en avant-première avec Anthony Martin. Une idée de sortie, les fourberies de Scapin font un retour en beauté à la comédie française grâce à Denis Podalydès et à une distribution époustouflante. Ce sera le coup de cœur de Monique Younes. Et puis à la télévision ce soir, le magazine Pièce à Conviction revient en deuxième partie de soirée sur France 3 avec une enquête sur la disparition des terres agricoles. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Bos.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Nous vous emmenons au cinéma, bien entendu, avec Stéphane Boutsock. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Dans un instant, nous passerons en revue quelques-uns des 13 nouveaux films à l'affiche. Mais tout d'abord, Stéphane, on va jeter un coup d'œil à notre box-office de la semaine écoulée.
Grâce à nos amis du site cbo.fr et comme je vous l'avais annoncé, ça fait trembler les salles en France aussi. Déjà plus d'un million de spectateurs chez nous, alors que Le Clown Tueur est devenu, aux États-Unis, le plus gros succès de l'histoire du film d'horreur. Le précédent record, c'était L'Exorciste.
Oui.
Loin derrière ça, on trouve Mon Garçon avec Guillaume Canet, qui ne démérite pas, autour de 150 000 entrées. La sortie était plus modeste. Gauguin avec Vincent Cassel se contente de 75 000 amateurs. Pour les continuations, notez le succès sur la durée du film Seven Sisters avec Naomi Rapace et Glenn Close, 1 350 000 entrées en un mois pour ce thriller fantastique que personne n'a vu venir. Et puis 120 battements par minute de Robin Campillo, je rappelle que c'est le candidat de la France à l'Oscar du film étranger, devrait franchir aujourd'hui le cap des 700 000 spectateurs.
Et place donc aux sorties de ce 27 septembre, vous revenez pour commencer au film RTL, Le Petit Spirou, dont vous nous parliez dès vendredi dernier.
Charmant conte enfantin à voir en famille, les petits se marreront avec les gags du jeune héros, les plus grands s'interrogeront sur cette question existentielle. Que fait Fait-on des rêves de nos enfants? Car oui, le petit Spirou, que sa famille voudrait voir perpétuer la tradition des grooms, rêve, lui, d'aventure. L'épatant débutant Sacha Pinault, entouré de Pierre Richard, de François Damiens, de Philippe Catherine, ou encore de Natacha Régnier, devant la caméra de Nicolas Barry, qui pour son troisième film s'attaque donc à une référence de la BD enfantine depuis 30 ans, tout pile. Adapter à l'écran un tel patrimoine n'est-il pas trop lourd à porter?
C'est vrai qu'à ce poids-là, pour moi, c'est vrai que le film et la bande dessinée sont des cousins. Après, on est obligé de faire des choix pour que le film devienne un film autonome. Et donc, ces choix-là peuvent s'apparenter parfois à une forme de trahison, qui est une façon de dire « ça, ça fonctionne pour la bande dessinée et donc, il faut trouver son équivalent ». Donc, par exemple, dans le rythme du montage, dans la musique, dans la direction artistique, pour finalement faire écho à l'âme de la bande dessinée. C'est une adaptation, je pense que des adaptations du Petit Spirou, il peut y en avoir plein des différentes.
Le Petit Spirou qui se termine donc, je vous le rappelle, en musique avec ceci. La voix de Vianney, Nicolas Barry, réalisateur du film RTL Le Petit Spirou, ça sort donc aujourd'hui au cinéma.
À l'affiche également, Stéphane, Un beau soleil intérieur de Claire Denis avec Juliette Binoche. C'est leur quoi, quatrième ou cinquième film ensemble, cette histoire-là?
Eh ben non, figurez-vous que c'est la première fois que la réalisatrice culte du cinéma d'auteur français et l'actrice culte du cinéma d'auteur mondial font route commune. Leur collaboration est pourtant évidente dès le début d'un film devant lequel je suis resté un petit peu circonspect tout en étant séduit. L'histoire, celle d'Isabelle, jolie femme, qui cherche désespérément le grand amour en étant persuadée qu'elle sera forcément déçue, et en cela, elle ne l'est pas déçue. Un beau soleil intérieur est à la fois bavard et contemplatif, esthétique et bordélique, mais surtout assez drôle, et ça, c'est pas vraiment la marque de fabrique du tandem Denis Binoche.
Non. C'est étonnant parce que là, je crois que la première lecture, je me suis dit, mais ça manque un peu d'humour quand même. Et quand je vois le film à la fin, je me dis que j'ai absolument rien vu quand j'ai lu. Je voyais qu'il y avait des situations qu'on peut rencontrer et j'en avais envie. Je trouvais qu'il y avait une écriture qui est rare au cinéma, mais je crois que je n'avais pas vu encore toutes les zones et les différents niveaux du texte.
Moi, je pense que parfois, avec Christine, on sent qu'il y a des situations, enfin dans la vie, qui nous font rire. Mais on est plutôt du côté sombre du rire, elle et moi, quand, dans nos vies respectives. Juliette est beaucoup plus solaire. même si elle a traversé des épreuves comme tout le monde, mais le soleil venait d'elle. Et puis je me suis aperçue que du coup ça éclairait cette vallée d'ombre qui était tout ce qu'on avait ressenti. Mais on riait quand même avec Christine.
Mais ce que j'ai senti, moi, c'est que tu avais besoin de soleil.
Ah bah,
t'as
oui.
besoin de soleil et d'être porté par le soleil.
Ah bah oui.
Et Louis Baudin nous a dit que ça allait arriver en plus, donc tant mieux. Xavier Beauvois, je parle du soleil. Bon. Xavier Beauvois, Nicolas Duvauchel ou Philippe Catherine, encore lui, puisqu'il est dans le petit Spirou, entoure Juliette Binoche, qui tourne en ce moment de nouveau avec Claire Denis, un film de science-fiction avec aussi Robert Pattinson. Mmh. À voir également Espèce menacée de Gilles Bourdos avec Alice Izaz et Vincent Rottier, histoire de trois familles pour le moins compliquées dont le destin ne sera pas simple non plus. C'est touffu, mais c'est assez fort. Et puis demain et tous les autres jours de Noémie Lvovsky, nouvelle balade nostalgique au temps de l'enfant, genre dans lequel l'actrice, réalisatrice est à son aise, un petit peu moins que d'habitude à mon avis. C'était le cas notamment dans Camille Redouble, qui était épatant en 2011.
Du cinéma américain à présent, avec un documentaire dont vous nous aviez parlé durant le dernier Festival de Cannes, Une suite qui dérange, consacrée au travail d'Al Gore pour l'environnement.
Oui, la croisade que l'ancien vice-président américain, candidat malheureux et volé, on peut le dire, de sa victoire face à George W. Bush en 2000, mène depuis 20 ans. Un premier film, Une vérité qui dérange, en 2006, avait alerté les consciences sur le réchauffement climatique, recevant deux Oscars et Al Gore étant récompensé quand même du prix Nobel de la paix. Voici donc la suite, film militant dans lequel on suit Al Gore dans le monde entier, essayant de convaincre les anonymes comme les puissants de la nécessité de changer les choses avant qu'il ne soit trop tard. Alors, c'est très hagiographique, mais c'est aussi très passionnant et ça prouve qu'à bientôt 70 ans, Al Gore garde le cap pour lui, malgré les récents revirement de l'administration Trump vis-à-vis des accords de Paris, le mouvement enclenché dans l'opinion ne s'arrêtera plus.
Nelson Mandela a dit un jour, durant son combat contre l'apartheid en Afrique du Sud, ça semble impossible jusqu'au moment où c'est fait. Ça s'est vérifié dans mon pays, dans le mouvement pour les droits civiques, c'était le cas bien plus tôt quand l'esclavage a été aboli, puis pour le droit des femmes ou récemment pour ceux des homosexuels. Il y a toujours une opposition et ceux qui se battent connaissent toujours un moment de désespoir en se demandant s'ils vont réussir. Mais quand ces questions peuvent se résoudre par un simple choix entre ce qui est bien et mal, alors tout change, car nous sommes des êtres humains, et moi je vois que là, pas très loin, nous sommes sur le point de franchir ce cap à propos de la crise climatique.
Al Gore dans Une suite qui dérange au cinéma donc ce 27 septembre. Si vous aimez l'histoire, notez aussi la sortie du film Le jeune Karl Marx du germano-haïtien Raoul Peck qui s'intéresse au futur auteur du Capital au moment où il décide de se lancer dans son combat pour la défense des ouvriers. On est à la fin du 19e, d'abord en Allemagne, puis en France pour cause d'exil forcé. Alors attention, c'est pas un biopic, mais c'est une réflexion intéressante, même si c'est un petit peu surligné et didactique, sur la genèse de l'œuvre historico-politico-littéraire majeur de notre histoire contemporaine.
Voilà pour l'actualité cinéma de la semaine. Nous allons maintenant offrir à nos auditeurs des places de cinéma pour aller voir Le Petit Spirou,
oui,
ainsi que le roman du film, oui, édité par la Bibliothèque Rose. C'est évidemment ma bibliothèque favorite, avec la Bibliothèque Verte.
C'est là où il y a les fantômettes, c'est tout,
oui,
ça.
Les fantômettes,
bien sûr.
Ah. Bon, alors pour gagner, il faut répondre à la question. Excusez-moi.
Le club des cinq.
Ils sont sept aussi, je ne sais plus
combien. Le club
des sept. Ça, c'est les sept nains, c'est autre chose.
Bon, alors.
La question peut-être.
Quelle est-elle?
Mais au fait, mm-hmm, quel est le métier auquel est destiné le petit Spirou? Groom ou taxi?
Réponse au 3210. Nous allons maintenant parler de nos audiences télévisées de la veille avec Médiamétrie et Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien, elles sont très intéressantes à observer parce que savez-vous, oui, qui est en tête hier?
Non,
eh bien, c'est Cash Investigation sur France 2. Très au-dessus de sa moyenne habituelle, 3 900 000 téléspectateurs sur les problèmes de travail, d'emploi. En deuxième position, Plus belle la vie, logique, 3 800 000 téléspectateurs en hausse par rapport à son score d'août, 16% du public sur la 3. Et en troisième position, très en dessous, Conviction, 2 800 000 téléspectateurs sur la 1. Donc vous en déduisez comme moi que la déception est pour Quadra sur M6. On avait prévu une petite baisse, elle est grosse, puisque le premier épisode est suivi hier par moins de 2 200 000 téléspectateurs et 9% du public. C'est vrai que c'est une fiction atypique, moi j'aime toujours beaucoup. Et alors côté TNT, c'est TMC, le maître d'école, 1 200 000. 113 000. Énorme score.
Qui est formidable, c'est vraiment le score de Cash Investigation.
Oui, absolument.
Merci beaucoup, on se retrouvera à la fin de l'émission, bien entendu, pour vos conseils télévisés de la soirée. Dans quelques instants, la musique et le retour avec grand plaisir de Bernard Lavillier avec Anthony Martin.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
50 ans après son premier 45 tours. Bernard Lavilliers publie vendredi son 21e album studio, 5 minutes au paradis. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour.
Vous avez rencontré Bernard Lavilliers et vous nous présentez ses 11 nouvelles chansons.
Oui, chansons qui forment un album puissant. Le gros plan sur l'œil noir du chanteur en guise de pochette nous annonce la couleur. L'album est dur, écrit entre fin 2015 et début 2017. Lavilliers, comme nous tous, face à l'actu tragique. Le disque est construit autour de 4 chansons qui, mises bout à bout, peuvent nous raconter une histoire. Celle d'un môme originaire de Charleroi qui prend les armes un vendredi 13. Pour ça, il ne passera pas plus de 5 minutes au paradis et il pensera malgré tout avoir connu la gloire. On découvre ces 4 chansons fortes avec Bernard Lavilliers.
Dans la gloire, c'est l'histoire d'un assassin professionnel, tout simplement.
Broyeur de mort, lanceur de feu, rôtisseur de petits villages, mon bel envoyé du bon Dieu, mon archange, mon enfant sage, bardé de cuir, casqué de fer, fusilleur, honneur de la race, que rien ne repousse où tu passes, mon soldat, mon fils de l'enfer.
Alors Charleroi, y a 2 personnages dans Charleroi. Il y en a un qui voit sa ville qui se délite, qui part en friche, et l'autre qui ne peut pas s'en aller, même s'il n'y a plus la loi, même si ça deal dans les rues, il est accro à cette ville. Et finalement, il a l'impression qu'elle dépend du fait qu'il ne déserte pas.
Je sens ma ville comme un amant, trompé par un riche imbécile. Je sens ma ville comme un aimant, ça me rend fou, presque débile. Il y a la mort qui nous fait du charme, et puis ils ont sorti les armes.
Les armes.
La chanson Vendredi 13.
J'ai enlevé des mots, par exemple, sur les caissons passent les ombres comme des marins pleins. Il y avait plus de texte qui expliquait. J'ai laissé les cordes jouer leur rôle parce que la musique plus abstraite peut parler à l'âme encore plus facilement que les mots.
Un peu de sang sur ma guitare, beaucoup de corps sur le boulevard. Bataclan et l'hymne à l'amour, ce sera pour un autre jour.
Je dis que le genre de personnages qui font ça, on les a vus sous le gibet de Montfaucon, au bûcher de l'Inquisition, aux assassins de la Commune, à Vichy, aux chemises brunes. Je veux dire, moi je fais pas de cadeaux, c'est les mêmes.
Ceux qui passeront tout au plus 5 minutes au paradis.
Ouais, peut-être bien juste pour les emmerder 5 minutes.
Machiavel pensait aussi que le prince n'a jamais tort. 5 minutes au paradis, avant que le diable n'apprenne ta mort.
5 minutes au paradis, c'est la chanson titre de ce nouvel album de Lavilliers. C'était pas évident d'envelopper ces textes glaçants et acérés dans des arrangements symphoniques. Franchement, l'équilibre est très réussi, ça porte le tout.
Et Lavilliers s'est inspiré d'autres thèmes puisés dans l'actualité.
Oui, le drame des migrants dans le titre qu'on connaît déjà, Croisière méditerranéenne, et Lavilliers l'insoumis face au grand capital aborde la violence dans le monde de l'entreprise. 2 titres, Bon pour la casse et Fer, F-E-R, et défaire. Fer et défaire, où apparaît le président du groupe ArcelorMittal, une chanson créée comme ça.
Je m'amusais avec mon piano à faire. Comment se faire plumer? Comment se faire aimer? Comment se faire se défaire, se refaire? Et après, comment faire des affaires de métal? J'ai trouvé avec Monsieur Mittal, pardi.
Alors Monsieur Mittal s'en va chercher le squale, le sergent sidéral qui s'était fait la malle, qui s'était fait et défait.
Monsieur Mittal, contre lequel je lutte depuis... Disons que la première fois que j'ai dû mettre les pieds à Florange, ça doit être en 79, quand il commençait à démanteler la sidérurgie de la Lorraine. Donc, j'ai gardé une dent de mon chien pour Monsieur Mittal. Ah, mais moi, je suis rancunier.
Votre côté insoumis, il en a pris un coup ce week-end avec les déclarations de Mélenchon?
Ah, mais Mélenchon, c'est un artiste. Il le sait, d'ailleurs, lui. Alors, évidemment, c'est un tribun. Alors, quand il se laisse emporter, j'irai pas jusqu'à comparer... Les gens marchent avec les nazis, quand même. Il a dit, d'ailleurs, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais des fois, il dit, et alors que c'est pas ce qu'il a voulu dire, sauf emporté par l'élan. Mais bon, moi, je suis encore d'accord avec une bonne partie des choses, des insoumis. Alors après, les envolées lyriques de Mélenchon, je dirais de lever le pied de temps en temps quand même.
Voilà qui est dit. Est-ce que Bernard Lavillier nous laisse un peu de répit dans son disque avec des chansons, comment dirais-je, moins dures ?
Oui, le cœur de l'album est tendre. Je vous laisserai découvrir deux ballades moelleuses dans un Paris suranné, des titres réalisés par Benjamin Biolay. Et puis en place 5, un morceau cuivré rempli de percus très réussi. Hommage à la musique et à l'inspiration. Et puis l'album se referme sur l'espoir avec un grand E en duo avec Jeanne Chéral, extrait.
Pour voir ce sourire d'enfant, pour ses cahiers déchirés.
Le soleil se lève aussi.
Le soleil se lève aussi.
Le soleil. Et si l'espoir revenait, tu ne croiras jamais dans le secret. L'amour fou de toutes tes forces va jusqu'au bout.
Et si l'espoir revenait, chanson de fin idéale pour ce nouvel album de Lavillier, 5 minutes au paradis qui sort donc vendredi. Beaucoup de causes perdues, peu de musique tropicale, vous l'aurez compris, mais oui. Lavillier m'a confié qu'il aura à nouveau la bougeotte dans son prochain disque. Ah. Il nous emmènera en Colombie, en Argentine et en Jamaïque.
Merci beaucoup Anthony. C'est donc l'histoire d'une rencontre entre deux Stéphanois, Lavillier
c'est
et
ça,
vous.
C'est ça, exactement.
C'est pour ça que nous avons passé particulièrement un excellent moment. Monique Younes, bonjour.
Bonjour.
Quoi de neuf au théâtre en ce début d'année ?
Ah, Molière, Yves. Bah, oui. Toujours Molière.
Vous connaissez vos classiques.
Mais oui, Sacha Guitry eût été ravi d'assister à l'ouverture de cette saison de la Comédie Française lundi soir, car son adage s'est confirmé. Ce bon vieux Molière a encore fait parler la foudre avec ses indémodables fourberies de Scapin, intarissable source d'invention décoiffante et de révélation.
De révélation.
Mais oui, elle a pour nom Benjamin Laverne. Bon, les connaisseurs le connaissent, c'est loin d'être un inconnu. Il a 33 ans, Benjamin. Il est pensionnaire depuis 5 ans aux Français. On l'a vu dans quantité de rôles et même au cinéma. Mais là, dans le rôle de Scapin, il n'est pas seulement sensationnel, il semble avoir été inventé par son metteur en scène.
Denis Podalydès.
Mais oui, c'est étonnant. Benjamin a 20 ans de moins, quelques centimètres en plus de Denis, mais la même souplesse d'interprétation. Laverne est à la fois Scapin et Denis Podalydès, ce qui fait de ce spectacle une farce autobiographique d'un genre inédit. La manière dont Denis Podalydès dirige Benjamin Laverne dans Scapin, c'est la fourberie posthume de Molière, c'est rien de dire qu'il tient la pièce de bout en bout.
Quand on joue Scapin, un acteur né qui adore les petits stratagèmes et les ruses galantes, c'est presque le minimum, non ?
Écoutez, donc Scapin donnait ses conseils à Argante, effondrée du mariage de son fils Léandre avec Zerbinette, l'égyptienne. Zerbinette,
pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui, il doit promener son esprit sur tous les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer. Se figurer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils estropié, sa fille subornée, et ce qu'il trouve qui ne lui est point arrivé, l'imputer à bonne fortune.
Alors, quand arrive Didier Sandre en Gironde, on se dit que le combat là va être inégal. Le jeune premier va se faire écrabouiller par le génie de ce monument du français, cette horrible Géronte, portée par son tube inusable.
Mais qu'allait-il faire dans cette galère ?
Oui, vous connaissez vos classiques. Mais là, Scapin, tout en finesse, va ruser pour soutirer au vieux Géronte les 500 écus nécessaires à son fils.
Monsieur. Quoi ? Monsieur, votre fils ?
Eh ben, mon fils.
Est tombé dans une disgrâce.
Et quel ?
La plus étrange du monde. Nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque. Oh, assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé. Oh, il nous a fait mille civilités, nous a donné la collation. Nous avons mangé des fruits. Oh, les plus excellents qui se puissent voir et bu du vin. Nous avons trouvé le meilleur du monde.
Et qu'y a-t-il de si affligeant tout ça ?
Mais attendez, monsieur, pendant que nous mangeons. Il a fait mettre la galère en mer. Et, se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et m'envoie vous dire que, si vous lui envoyez par moi, tout à l'heure, 500 écus, il va vous emmener votre fils en nager.
500 sans aiguille.
La scène qui suit est d'une violence et d'une cruauté absolue. Et en plus, elle est drôle. C'est ça qui est terrible. Drôle de voir ce vieil avare sommé de choisir entre ses 500 écus et la vie de son fils adoré. Drôle de le voir se faire flouer par un scapin qu'on adorait et qu'on commence à trouver méchant. Drôle de le voir surpris par sa victime. Bref, le public est manipulé dans les grandes largeurs. Et il aime ça. Il sait que le théâtre est fait pour ça. C'est presque à une scène de torture que nous convient ce genre, que nous convie ce gentil Molière, le doux Podalydès, le brillant Benjamin Laverne et le génial Didier Sandre.
Femme, voilà, tu m'assassines. Tu me perds.
Voilà, vous avez pitié de tous, vous les aimez tous, le théâtre triomphe, le reste de la distribution est parfaite, et ils devront me pardonner de ne pas tous les citer, mais je dois quand même avoir un peu de temps pour parler de ce beau moment qui fait aussi partie du théâtre, l'hommage rendu lundi soir par le patron de la Comédie française, Éric Ruff, à Gisèle Cassatsu, qui venait de mourir à l'âge de 103 ans. La doyenne des actrices françaises avait débuté sur cette scène-là en 1934 à l'âge de 20 ans. Je ne sais pas si c'est dans la tradition de la Comédie française que de rendre hommage aux acteurs disparus en applaudissant ainsi longuement, oui, oui, les yeux au ciel. Mais c'est ce que la troupe a fait et c'était théâtral au sens noble du mot.
Et pour ceux, Monique, qui ne pourront pas venir à la Comédie française voir Les Fourberies, eh bien sachez que certains cinémas pâtés retransmettront en direct la pièce le jeudi 26 octobre à 20h. Dans un instant, la télévision.
Dès le matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Et nous terminons ce Laissez-vous tenter avec la télévision. Notre soirée télé, alors on signale sur Arte le formidable film Le Souper avec Claude Richet, Claude Brasseur.
Ah oui, un chef-d'œuvre de 92 signé Édouard Molinaro. Il raconte comment, au cours d'un dîner organisé après la chute de l'Empire, Talleyrand, Claude Richet et Fouché, Claude Brasseur, restaurent la monarchie et se restaurent au passage, eux que le peuple accuse en plus de se goinfrer sur leur dos, échantillon.
Foie gras truffé.
Du Périgord, donc de chez moi.
Prince, vous savez vivre.
Une habitude, monsieur Fouché. Le savoir vivre et le savoir mourir. Cela chez nous se sait à la naissance.
Voilà, 20h55, Arte, les dialogues aussi sont savoureux, j'adore.
Alors, votre coup de cœur, c'est quand même l'émission Pièce à conviction, qui est consacrée ce soir à la disparition des terres agricoles, et c'est sur France 3.
Oui, à 23h30, ça se mérite, elle est nécessaire, cette émission, Bernard Lavilliers adorerait, qui montre la dramatique disparition des terres agricoles, rachetées de plus en plus et de plus en plus chères, partout en France, par des hommes d'affaires, des promoteurs, des milliardaires étrangers. Un bon exemple, alors mieux qu'un long discours, on va d'abord à Tournu. Tournu, son église millénaire, ses 4 supermarchés, et bientôt un hyper pour 6000 habitants, opposant au projet Bertrand Vaux, résume la situation.
À Tournu, nous avons 3 fois plus de surface commerciale, de grande surface commerciale par habitant que la moyenne nationale. Tout le monde sait que ce nouveau supermarché, hypermarché, on ne sait plus, il est inutile. Tout ça pour répondre aux intérêts de ces multinationales de se faire la guerre entre eux. Et donc, qui est-ce qui paye les dégâts collatéraux? Les agriculteurs, les commerçants et les générations futures, qu'on est en train d'amputer quand même, de leurs terres agricoles.
Oui, impossible pour eux de conserver leurs terres, comme Michel Ruguier, qui cultive les mêmes parcelles très fertiles depuis 40 ans.
À ce prix-là, on ne peut pas racheter, c'est pas possible.
Le prix de la terre, c'est combien normalement?
C'est environ 6 000 euros, là. C'est bien payé, 6 000 euros l'hectare. Et là, c'est à raison de 260 000 l'hectare. 260 000 euros l'hectare. C'est difficile à digérer, évidemment, quoi. On ne peut pas empêcher les gens de vendre leurs terrains s'ils ont envie de les vendre.
Alors, l'émission C'est honnête donne la parole à tous, à commencer par le maire de Tournu, Claude Roche, à qui la journaliste fait remarquer que selon une étude de 2015, cette construction entraînera la fermeture de l'un des hyper, justement.
Oui, enfin ça, moi, les études, elles se transforment pas toujours dans la réalité.
C'est vous qui avez commandé cette étude?
Oui, on a commandé une étude, oui. Je remets pas en cause le sérieux de l'étude. Je vous dis simplement qu'une étude qui a été faite il y a 6 mois, aujourd'hui, 6 mois après, on est dans un monde où l'économie bouge en permanence,
C'est ça. On va aussi vers Agen pour un gigantesque projet high-tech réquisitionnant 210 hectares contre les 40 nécessaires selon les économistes. Et on termine par l'intérêt des Chinois pour toutes nos terres. Ils rachètent des milliers d'hectares. Leurs actions suscitent évidemment des réactions. Alors l'émission n'insiste pas assez sur le fait, c'est mon seul bémol, que si les Chinois veulent nos terres, c'est parce qu'ils ont détruit quasiment toutes les leurs. Et donc on bazarde des surfaces agricoles alors qu'on va être bientôt 11 milliards à nourrir. C'est peut-être la seule évidence que l'émission ne met pas assez en parallèle. Mais c'est un excellent pièce à conviction, et que je signale donc à Bernard Lavilliers, parce que je sais que c'est une cause qui l'intéresse.
Et rappelons que ça passe à 23h30 sur France 3. On se dit au revoir dans un instant avec des cadeaux.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Si on chantait.
Je n'irai pas par quatre chemins. Quel est le métier auquel est destiné le petit Spirou, cher Stéphane Boulsock?
Groom?
Eh ben oui, voilà. Si vous nous avez appelé au 3210, eh ben vous avez gagné des places pour aller découvrir le film en salle, ainsi que le roman du film édité par la Bibliothèque Rose. Tout ce que nous aimons. Et ça nous permet d'accueillir Julien Courbet.
Merci, comment ça va mon Yves?
Pas mal du tout.
Bah écoutez, voilà, j'apprends que les couples se forment à la rédaction, c'est formidable. Louis Baudin, Elisabeth Martichoux, qui aurait pu le croire, hein. Louis, comment ça se passe avec elle?
De la douceur quasiment partout.
Bah tant mieux, et là, qu'est-ce qu'elle est en train de vous faire là?
Vous avez remarqué quand même, c'est grand écart.
Ah bah c'est bien, parfait. Non, mais ça donne un petit coup de jeûne à tout le monde tout ça. C'est parfait mon Yves, je vous souhaite une bonne journée.
Je vais observer ça d'assez près, comptez sur moi.
Si vous pouviez faire une petite photo pour Twitter ou un truc comme ça.
On va tweeter ça en 240 signes. Et on vous souhaite une bonne journée.
140, oui.
Non, ça a doublé. Ça a doublé ce matin, mais oui, 240.
Mais quand vous dites
280.
Vous parlez de Louis Baudin ou du Twitter? De quoi parle-t-on?
Je vous parle du nombre de signes qu'on peut faire sur Twitter.
Ah bah si ça a doublé, alors c'est formidable. Bientôt on va pouvoir mettre des points.
Oui, on va regarder.
Merci.
Bonne émission.